effets que vous évoquez, là vous évoquez des effets liés à des comportements ou à des choix politiques de certaines applications. Est-ce qu'il y a des effets à attendre sur l'espace public lui-même, sur l'expérience physique concrète des usagers, voire sur les formes urbaines?
Alors là-dessus, c'est un aspect sur lequel on ne sait pas trop dire si les effets que ça va avoir vont être bons ou mauvais. En tout cas, il va y avoir des effets, on alerte les collectivités sur le fait qu'elles doivent regarder ces effets. Le premier, c'est le fait qu'en rendant extrêmement lisible ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments, notamment avec des outils cartographiques assez puissants chez Google Maps, notamment vous pouvez apercevoir maintenant la réalité augmentée qui permet de regarder dans un immeuble qu'est-ce qu'il y a derrière la façade. Au fond, que tous ces outils vont rendre, parce qu'ils rendent lisible et public ce qui se passe derrière la façade, vont un peu changer nos rapports au rez-de-chaussée. Avant, au fond, la valeur foncière d'un rez-de-chaussée, c'était essentiellement sa qualité de visibilité vis-à-vis d'un axe passant, chaland, et que tout d'un coup, ce rapport à la visibilité va changer. Par exemple, des commerces qui pourraient se retrouver en arrière-cour, au second plan dans le bâtiment, des commerces qui pourraient se retrouver à l'étage, un peu comme un urbanisme à la japonaise hein, d'ailleurs. Au fond, c'est des formes urbaines qui n'existaient pas jusqu'alors et qui pourraient exister. Et on ne dit pas que c'est mauvais ou bon, hein, mais en tout cas, ça va beaucoup changer la façon dont pour l'instant on structure notre urbanisme avec une attention très particulière, avoir des rez-de-chaussée visibles, etc. Mais qu'au fond, ces outils qui nous permettent de voir derrière les façades, de mieux comprendre où on se situe et comment se rejoindre une destination, vont beaucoup changer effectivement la façon dont se construisent ces activités ouvertes en ville.
Alors, en plus, si on s'arrête un instant sur le terme d'espace public, il y a quand même une chose importante dont vous parlez d'ailleurs dans votre réflexion, qui a déjà été évoquée en passant, mais qui est que l'espace public a un sens politique très fort. D'ailleurs, c'est un concept qui vient de la philosophie politique. L'espace public est arrivé dans l'urbanisme après avoir été formulé par des gens comme Habermas en Allemagne, ou Hannah Arendt, tout ça. Donc c'est intéressant de le rappeler il y a un instant. C'est-à-dire que dans l'espace public de la ville, concrètement, ce qu'on peut faire par exemple, c'est manifester, c'est protester, c'est se réunir pour des motifs qui ne sont pas uniquement liés au commerce et à la marchandise. Et de ce point de vue-là, les outils sur lesquels vous proposez de travailler, dans quelle mesure est-ce qu'ils prennent en compte ce risque-là, je dirais, qui est un risque peut-être de diminution des libertés individuelles au nom de la sécurité, on le vit tous les jours.
Pour le coup, l'article ne va pas très loin sur ces sujets-là et je serais un peu en peine là, de dire quel effet Google Maps a sur l'exercice de ces libertés-là. Je pense qu'ils ont d'autres problèmes en ce moment que Google, malheureusement. Après, en revanche, sur la notion d'espace public, c'est quelque chose là pour le coup qu'on souligne dans l'article, et c'est particulièrement Alexandre qui en témoigne en tant qu'usager à titre personnel, c'est la nouvelle fonctionnalité dans Maps et dans toutes les applications Google qui vous calcule un taux d'affinité avec certains lieux. Et dans la notion d'espace public, y compris dans cette idée de flânerie, qui est une idée très chère à Emmanuel Hoss de la CMA Est. Donc la CMA Est, c'est un peu le bras armé de la ville de Paris sur le sujet des commerces. Donc c'est avec elle qu'on réfléchit beaucoup à ce sujet de la flânerie. Il y a une idée de commun. Une idée d'imprévu, une idée de mixité. Et qu'en fait, Google, notamment, mais pas seulement, notamment via ce taux d'affinité, peut supprimer complètement. C'est-à-dire que vous pouvez naviguer dans la ville et y côtoyer d'autres personnes, effectivement, dans une relative mixité, etc. Mais sans, en fait, aller ni au même endroit, ni venir du même endroit, ni être sur la même trajectoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs villes via cet entremêlement entre fonctions numériques, espace public, espace commerçant, service public, etc., on peut avoir plusieurs villes qui cohabitent et qui ne se croisent plus, des usagers de la ville qui ne se croisent plus. Donc, je ne sais pas s'il faut, on peut peut-être détailler ce taux d'affinité et comment ça fonctionne.
Ça serait bien de préciser le fonctionnement et la personnalisation finalement de l'expérience de la ville pour revenir à cet enjeu d'espace public.
Est-ce que vous savez à partir de quelles données ces degrés d'affinité sont construits?
Le taux d'affinité, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement comment fonctionnent les algorithmes de Google Maps là-dessus. On sait juste qu'effectivement, si vous regardez un café dans un quartier pas très loin de chez vous, Google, sur base de votre profil, et c'est là que c'est un peu flou, mais c'est un peu inquiétant, peut-être vos derniers mails échangés, peut-être les derniers textos que vous avez échangés, peut-être les cafés que vous avez aimés par avant, au fond, vous propose ce qu'ils appellent un taux d'affinité et du coup de probabilité que ça vous intéresse. Et là, on voit effectivement les enjeux, les effets de bulles numériques. On voit tout à fait en quoi elles deviennent des bulles physiques et sociales instantanées.
Comme une application de rencontre, finalement.
Exactement. Ouais. Je n'allais que dans les cafés avec des gens qui ont les mêmes goûts que moi. on voit tout le problème que ça pose à la question de qu'est-ce que c'est que l'espace public et qu'est-ce que c'est que cet espace de rencontre.
Qu'est-ce que c'est qu'un café ?
Qu'est-ce que c'est qu'un café ? Mais peut-être encore pour rebondir sur cette question de en quoi est-ce qu'on challenge l'espace public ? Effectivement, je ne pense pas qu'on dit, en tout cas sur cette question de Google Maps, Google fait du mal à l'espace public, on alerte plutôt sur le fait que... on souhaiterait étendre la question de la souveraineté des pouvoirs publics au-delà de la façade. C'est-à-dire que, historiquement, on a un peu une vision de l'espace public qui est, enfin, de la ville qui est, l'espace public est sous gouvernance des pouvoirs publics, et ce qui se passe derrière les façades, derrière les murs, c'est de l'ordre du privé, et chacun chez soi, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et là-dessus, on alerte un peu sur le fait que, on revient sur une question de formes urbaines, c'est que les rez-de-chaussée ont une nature éminemment publique, parce que visible du fait d'une façade, parce qu'on peut y rentrer juste en poussant un seuil de porte, qu'au fond, on a intérêt à ce que les collectivités aient un regard à minima, mais probablement une forme de politique active sur les fonctions de nos rez-de-chaussée. Et là-dessus, on alerte qu'effectivement, si les collectivités veulent aller là-dessus, et elles le veulent, hein, c'est par exemple l'objet de programmes comme Cœur de Ville, qui essaie de redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs d'un certain nombre de villes moyennes, ont intérêt à essayer de pousser la porte de quelles sont les activités, quels sont les services, quels sont les commerces qu'on va trouver dans nos centres-villes, et que là-dessus, il va falloir qu'elles s'équipent d'outils à un endroit où justement on vient de dire que Google est extrêmement hégémonique et a déjà toute cette connaissance-là.
Juste pour terminer, après j'arrêterai de me faire moi l'avocat, tout court, Paul disait qu'il était l'avocat du diable, mais il y a tout de même des exemples de comment dire, d'acceptation de la part de Google, d'avoir des censures sur la simple recherche Google dans certains pays, on le sait, avec des gouvernements. Dans quelle mesure on serait protégé en tant qu'usager, que client finalement de Google, qui se paye avec les annonces publicitaires en partie, par exemple, de ces effets de censure-là, pour en tant qu'usager de la ville. Parce que vous avez employé des termes, alors juste pour aller au bout de mon idée, mais même défendre la mixité, etc., il y a quelque chose qui est intéressant, qui est peut-être réintégrer une forme d'expérience en partie négative de la ville, c'est-à-dire l'altérité qui ne nous plaît pas. Et ça, c'est quelque chose que les sociologues ont beaucoup analysé dans l'expérience de l'espace public de la ville. On n'a pas forcément, c'est pas la grande fraternisation, la ville. Ce sont aussi des rencontres, des présences qui ne sont pas uniquement agréables, mais s'éduquer à la ville comme usager, comme, praticien, pratiquant en tout cas de cet espace urbain, c'est vivre avec ça, avec cette différence. Et il me semble que dans tous vos propos-là, on entend, peut-être c'est moi qui le déforme, mais une sorte de risque ou de danger, pour reprendre les termes qu'on avait employés, qui est de menacer cette présence de l'altérité. On a beaucoup entendu parler quand même de commerce. Les rez-de-chaussée, c'est pas peut-être que des commerces, c'est aussi des lieux comme des bibliothèques publiques, des lieux de rencontres associatifs, des écoles, des hôpitaux. Est-ce que de ce point de vue-là, ce qui est encore un peu blanc, un peu gris sur les cartes de Google, est-ce qu'il y a des projets là-dessus ? Est-ce que vous voyez une alternative possible ?
Sur le fait de se confronter à cette altérité, le mot technococon, je crois qu'utilise Damasio, est assez intéressant. C'est vraiment ça. Enfin, ce taux d'affinité fait courir le risque de construire un technococon autour de chacun, effectivement dans une expérience de la ville qui est très confortable, rassurante, mais qui en fait ne l'est qu'au prix d'une réduction de nos libertés. Alors pas forcément de nos libertés publiques, mais de notre liberté d'usager, notre liberté d'être à un moment donné mis en situation, à un moment où on essayait de définir la flânerie, on se disait c'est un subtil mélange entre sentiment de sécurité, c'est-à-dire qu'on flâne pas si on se sent profondément insécurisé, mais de capacité à se mettre en insécurité, à être surpris, à être hors d'un chemin un petit peu familier. Après, sur est-ce que les risques que tu soulignes sur Google, je pense qu'on n'en est pas protégé. Nous, on n'a pas poussé très loin le scénario noir. Damasio le fait en partie. Mais effectivement, nous, on s'intéresse aussi beaucoup aux services publics. C'est vrai que là, pour l'instant, on parle beaucoup de commerce, assez peu des services publics. Il n'y a aucune raison d'imaginer que le jour où le système de santé devient plus qu'aujourd'hui privé, Google ne passe pas un deal avec une grande chaîne de cliniques pour faire en sorte que quand vous vous coupez le doigt ou votre gamin a un problème, ce qui vous saute aux yeux quand vous ouvrez l'application, c'est évidemment les centres de santé de cet opérateur privé plutôt que tout centre un minimum gratuit ou public. Il n'y a pas de raison d'imaginer que ça puisse pas se passer comme ça. Après, on n'en est pas tout à fait là. Mais...
Une fois de plus, c'est la question de qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce qu'une société met en commun que je pense vous posez. Finalement, ces services publics, ils sont censés être partagés, alors que quand ils sont sur une voie de la privatisation, bah, du coup, tout le monde ne peut pas y avoir accès, ou en tout cas, ça, voilà, ça génère des inégalités. Ça, je pense que c'est assez clair. C'est pareil, finalement, pour l'espace public, comme vous le dites. Et il me semble que, finalement, ce que souligne aussi votre article, c'est à quel point les outils numériques, que ce soit les téléphones portables ou les applications qui y sont reliées, individualisent notre rapport à l'espace public. C'est-à-dire que quand je suis au sein de l'espace public, plutôt qu'aller regarder un plan qui est affiché dans l'espace public, que je pourrais partager avec d'autres gens, plutôt que demander mon chemin, eh bien, je vais plutôt regarder sur mon téléphone. Et que finalement, peut-être que cette individualisation de notre rapport à l'espace public affaiblit finalement le citadin en tant que citadin, vu qu'on se retrouve davantage à des individus qui vont d'un point privé à un autre point privé et qui avons moins à partager. Est-ce que ça résume à peu près le
partiellement, est-ce que ça rebondit effectivement sur le fait que la ville, c'est aussi le contrat qu'on signe en tant que citadin, alors citadin, quel que soit celui d'un village ou celui d'une grande ville, c'est le contrat qu'on signe à cohabiter, y compris avec des formes de culture inconnue, avec des inconnus tout simplement, et le fait qu'on accepte cette expérience inconnue. Et là-dessus, je pense qu'on est entièrement d'accord. Le biais qu'on a dans le taux d'affinité, qu'on a dans les capacités, enfin, tous ces outils de recommandation individuelle, c'est qu'au fond, on arrive dans un usage de la ville sans friction, de ne plus jamais tomber sur quelque chose d'inconnu, de ne plus jamais tomber sur un commerce, sur une personne inconnue, sur un café inconnu, et que cette capacité à faire de la ville l'espace dans lequel on multiplie des interactions sociales plus ou moins maîtrisées, aille vers plutôt une maximisation des espaces ou des bulles sécurisées, potin et monétisable par ailleurs.
Romain. Ouais, je nuancerais peut-être un tout petit peu sans avoir d'exemple précis, mais sur là on a glissé de Google l'application au smartphone, l'outil et au numérique en général. Je pense que sur le numérique, on a aussi nous autres qui pouvons être un peu technosceptiques ou prêter une grande attention à ça, des représentations fausses ou biaisé des usages qui en sont faits. Et donc, est-ce que le smartphone intrinsèquement et dès aujourd'hui et pour toujours ancre que les usages de l'espace public sont individualisés? Je suis pas sûr. Il faudrait vérifier. Bon, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est les gens qui discutent, qui ne se connaissent pas, qui discutent autour d'un smartphone parce qu'un autre a plus de batterie ou que la personne n'en a pas pour justement trouver un chemin. Je pense qu'il y a plein d'autres usages avérés aujourd'hui et surtout à imaginer où l'outil numérique ou le smartphone peuvent potentialiser des usages collectifs, des usages politiques de l'espace public et de la ville. Donc, je prendrais juste garde à pas d'emblée disqualifier l'outil numérique dans sa relation à l'espace public.
L'outil dépend effectivement de ce qu'on en fait, ce qu'on peut en faire et ce qu'il serait bien en faire. On en parlera dans la troisième partie de l'émission. Pour l'instant, deuxième pause musicale et c'est...
Alex.
Alors moi j'ai un choix plus gratuit et moins argumenté que Romain, c'est un morceau de Chassol que j'aime beaucoup et qui démarre, comme tout l'album d'ailleurs, sur des enregistrements qu'il a fait dans la rue avec des gens et qui capte assez bien qu'est-ce que c'est un marché et qu'est-ce que c'est du coup de tenir une chalandise. Du coup, ça démarre avec un petit interview assez croustillant.
L'année dernière, j'étais reine mère du Sud.
Vous appelez comment?
Madame Étienne Lys. Mon nom, c'est Lys. Le nom de mon mari, c'est Étienne. Je suis veuve. Et mon nom de fille, c'est Tiamé.
Toujours sur Cause Commune, Ainsi va la ville, avec aujourd'hui donc Romain Bochet et Alexandre Muche de l'agence de design d'intérêt général Vraiment Vraiment. Nous en sommes maintenant à parler, donc dans cette troisième et dernière partie de l'émission, vraiment très concrètement des formes urbaines, c'est-à-dire de comment est-ce que finalement les designers justement peuvent intervenir dans ce rapport de la ville et du numérique et proposer, en regardant les formes telles qu'elles sont cartographiées, des outils, ou peut-être des contre-outils, pour mettre à disposition de l'intérêt général. Donc la question qui va diriger cette partie, au fond, c'est comment reprendre le pouvoir sur la ville. Et qu'est-ce que vous pouvez faire à cette fin ?
La première idée, elle vient un peu de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au fond, on pressent que dans le contexte actuel, sur la question de qu'est-ce qui fait un centre-ville, etc., la question d'une connaissance de ce qui se passe dans les rez-de-chaussée, de savoir tout simplement les activités de rez-de-chaussée. Tu as raison de souligner que d'ailleurs, on parle beaucoup de commerce parce que c'est un sujet d'actualité politique avec les municipales en ce moment, sur comment est-ce qu'on fait résister notre commerce dans les centres-bourgs, dans les villes moyennes, etc. Mais on ne parle pas que de commerce, on parle de toutes les activités communes qui bénéficient d'être logées précisément au rez-de-chaussée. Les fonctions partagées, on l'a vu, ce studio radio, par exemple, on y entre par le rez-de-chaussée, on peut voir par la vitrine ce qui s'y passe, peut-être qu'un jour un voisin a été curieux et par passion radiophonique a un jour poussé la porte. Du coup, cette question de toutes les fonctions au rez-de-chaussée, on présage qu'il y aurait intérêt à ce qu'il y ait une connaissance publique et une forme de souveraineté qui arrive des pouvoirs publics dessus. Et là-dessus, un peu par opportunisme, on est retombé sur ce qu'on apprend en première année d'école d'archi, ce qui est le plan de Noli. Alors pour rappel, c'est un plan qui a été réalisé à Rome par Noli, je crois. Je connais pas mal mon histoire architecturale, mais qui avait pour objectif de décrire l'ensemble de l'espace public et qui met sur un même plan, aussi bien l'espace public, les places, les rues, que l'ensemble des rez-de-chaussée accessibles. Et la carte, je vous invite à aller la voir sur Internet, je crois qu'elle est même en haute définition à plein d'endroits, elle a cette qualité assez folle, au fond, de vous décrire de façon assez unanime, aussi bien, alors à l'époque, c'était l'intérieur des églises, les cours de palais.
L'époque, hein, pardon, t'interromps, mais c'est 1748, c'est bien quand même de le rappeler, c'est-à-dire que c'est le premier, historiquement, à avoir poussé ce degré de connaissances analytiques par la cartographie de la ville. Donc, pardon, continue sur...
Mais exactement. Voilà. Du coup, une carte qui, au fond, vous invite, en tant qu'usager, à connaître, d'une part, les emprises publiques, et d'autre part, les emprises privées, mais accessibles de l'espace public.
En fait, c'est vraiment la question, ce que tu évoques, du sol de la ville, c'est-à-dire le sol que l'on peut partager à un moment donné.
Exactement. Et on pense que la question, enfin, ce rez-de-chaussée, ou je pense que c'est Mangin qui dit un peu ce rez-de-ville, au sens où il souligne que, au fond, les rez-de-chaussée appartiennent avant tout à l'espace public, du fait de leur visibilité et de leur accessibilité naturelle, qu'au bâtiment qui le surplombe, au sens où ce serait juste le prolongement des étages de logement ou de fonctions au-dessus. Et au fond, cette appartenance à l'espace public, on sent qu'il y a un enjeu à ce que les collectivités reprennent la main dessus. Du coup, dans les premières solutions qu'on présage, c'est qu'au fond, pour l'instant, cette connaissance des rez-de-chaussée, elle est manquante. Alors, elle n'est pas complètement absente. Au fond, on a en France beaucoup de politiques publiques qui ont des formes de connaissances ou des bases de données qui connaissent où sont situées les différentes activités, mais qu'elles sont soit dans des serveurs inaccessibles au public, soit pas coordonnées. Enfin, les chambres de commerce connaissent tous les noms de commerçants, connaissent leur adresse d'implantation. Il y a énormément, au fond, il y a une connaissance publique de ce qui se passe dans les rez-de-chaussée, mais elle est pour l'instant éparse, pas interopérable, c'est-à-dire que pour l'instant c'est des bouts de fichiers qui traînent dans les serveurs de chacune des directions de la ville, des ministères, etc., et qui ne permettent pas d'en déduire un fond cartographique, une représentation de l'espace, où on acte effectivement un peu ce qu'on mettait en perspective dans l'article, qu'au fond le sol de la ville dans son entièreté est au fond un objet qui doit être regardé, et peut-être partiellement un objet d'action publique, et que là-dessus, il y a un enjeu avant tout à démarrer par une connaissance.
Et cette connaissance, elle doit être publique, en tout cas, c'est ça que tu évoques.
Effectivement, elle doit être publique au sens, elle doit être partagée entre les acteurs publics, et elle doit être accessible. On revient encore sur OpenStreetMap, qui nous paraît être le bon fond dans lequel cette connaissance publique pourrait être distribuée. Ça veut dire, au fond, tous les grands possesseurs d'informations, je reviens, les chambres de commerce, les directions d'urbanisme, qui après chaque permis ont une connaissance de comment sont aménagés les rez-de-chaussée, au fond pourraient un peu collaborer pour essayer de fabriquer cette connaissance de quelles sont les formes qu'on trouve en rez-de-chaussée, quels sont les rez-de-chaussée accessibles, quelles sont les vitrines, mais aussi de connaître quels sont les acteurs qui sont dans chacun de ces rez-de-chaussée.
C'est vrai que c'est toute la question de l'accès aux données publiques, savoir est-ce que les données possédées par les acteurs publics doivent être des données accessibles à tout un chacun. En effet, je me souviens que dans votre article, vous proposez d'autres types de manières, de leviers pour reprendre le pouvoir sur nos villes et pour profiter des outils numériques plutôt que de les subir. Est-ce que tu veux en développer d'autres ?
Il nous paraissait important aussi qu'on commence à essayer de rentrer dans un degré d'analyse. Au fond, une des origines de l'article, c'était aussi de se rendre compte que, d'une certaine manière, Google Maps, c'est vraiment, je vous invite, vous, auditeurs, à aller voir ce petit fond jaune. Vous apercevez quand vous ouvrez l'application ou la carte sur votre site internet, vous avez un léger jaune.
Publicité pour Google Maps.
Désolé pour aller voir. Allez-y une fois, n'y revenez jamais. D'aller voir qu'au fond, Google a, de façon assez fine, une capacité à déceler ce qui fait centralité urbaine et ce qui fait urbanité. Alors pour ça, ils utilisent énormément de données, énormément d'algorithmes pour présager ça. Mais au fond, quand on regarde, aller dans vos villes, aller à Paris, c'est assez étonnant de voir les zones qu'ils ont surlignées en jaune, on voit qu'au fond, il y a une capacité, en travaillant le numérique, en regardant une multiplicité de facteurs, la largeur de la rue, la largeur du commerce, les horaires d'ouverture, les types de fonctions, au fond, qu'ils ont fabriqué une sorte de connaissance de qu'est-ce qui fait centre, qui est assez intelligente et auquel on mériterait, au fond, nous, acteurs communs, acteurs publics, de s'atteler, au fond, de dire, mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'une rue vit en ce moment ? Est-ce que c'est la densité de commerce ? Est-ce que c'est le fait que le linéaire de rez-de-chaussée est vivant ? Est-ce que c'est le fait que c'est ouvert le soir ? Et au fond, on sent que là-dessus, il y a une forme de méconnaissance. Il y a des bouts de connaissances à droite à gauche, chez certains urbains, chez certains architectes du commerce. Mais au fond, on aura intérêt à prendre une posture un peu d'analyse concrète, basée sur de la donnée, et effectivement de rentrer un peu sur c'est quoi les... par analyse, par calcul, c'est quoi les bonnes recettes qui font qu'à un moment on arrive à refabriquer des centralités.
Mais c'est toute la question de est-ce que les villes peuvent, et la production des villes et leur gestion, peuvent finalement s'organiser avec des données, des chiffres et de manière assez froide est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'invitation à la flânerie dont tu parlais tout à l'heure, qui par définition a une part de hasard et qui ne peut pas s'organiser auparavant ?
Je ne sais pas. Je pense qu'on est vraiment... Alors là, on est sur la question notamment du commerce. Hein, j'y reviens parce que c'est vraiment actuel, hein, sur la question des centres-bourgs. Mais au fond, il y a beaucoup de... Enfin, c'est débattu par tous les maires de petits bourgs sur est-ce que c'est la pharmacie, mon dernier rempart à la fermeture de mon centre-bourg ? Est-ce que c'est l'épicerie ? Est-ce que c'est la boulangerie ? Est-ce que c'est la combinaison d'une boulangerie à côté d'une pharmacie qui font qu'à un moment, les acteurs de mon territoire ? Il n'y a sûrement pas de réponse, mais on sent que là-dessus, on aurait intérêt à se muscler et avoir une connaissance un peu plus regardante sur les données, sur les usages.
Là, dans ce que vous évoquez tous les deux, c'est Il y a à la fois l'expérience de humaine, hein, de la flânerie, la façon dont la flânerie est organisée ou pas par un logiciel ou organisée par des pouvoirs publics, et il y a la façon de fabriquer la ville. Et là, tu évoques ce mythe, peut-être c'en est un, je ne sais pas, de faire centre, de retrouver des centralités qui est effectivement au cœur de toutes les métropoles, de tous les nouveaux quartiers, les villes nouvelles, les villages dévitalisés, enfin voilà, qu'on entend partout maintenant dans la bouche des maires et des concepteurs. Et justement, vous montrez dans votre article quelque chose de très intéressant, parce que je reprends exactement ce que tu étais en train de dire, mais le centre, et vous montrez d'ailleurs que le centre décidé, enfin que les centralités décidées par les algorithmes de Google souvent ne coïncident pas avec les efforts publics faits pour créer des centralités. Donc vous évoquez par exemple, là je lis un tout petit extrait de votre article, mais vous dites: il suffit de constater ce que ne sont pas devenus par ordre chronologique les villes nouvelles, les nouveaux boulevards urbains, les quartiers ayant bénéficié des politiques de renouvellement urbain, les centres-bourgs protégés, pour se rendre compte de la fragilité, de la rareté de l'urbanité réussie. Donc en fait, moi ce que j'entends à demi-mot aussi dans ce que vous dites, c'est que c'est un peu comme s'il fallait apprendre de ce que propose Google.
Je ne sais pas s'il y a à apprendre, en tout cas à acter que notre fabrique de la ville, qui s'est pendant longtemps, enfin, d'ailleurs ce n'est pas tout nouveau, hein, mis comme objectif de fabriquer des centralités, a pour une bonne partie des actions échoué. Effectivement, les villes nouvelles, les grands boulevards urbains sont au fond des bouts de paysage dont peu d'entre eux sont devenus des destinations pour nous. Les rez-de-chaussée peuvent être vides, peu vivants, il n'y a plus personne après 17h. Et du coup, effectivement, je pense qu'il y a un constat derrière l'article qui est de dire on doit un peu remettre à plat l'ensemble de nos outils avec une attention plus particulière, non pas aux grandes infrastructures, parce que les élus et nos politiques adorent signer le grand projet urbain, la nouvelle salle des fêtes, enfin, dès qu'il y a plusieurs millions d'euros sur la table, et au fond assez peu à l'écoute de choses un peu plus fines sur les usages de la ville.
Merci beaucoup, il nous reste à vous remercier tous les deux d'être venus et à souhaiter à nos auditeurs une bonne quinzaine jusqu'à la prochaine.
Peut-être que on se quitte en musique sur un extrait d'Alain Damasio, c'est ça ?
Oui, c'est une intervention publique, hein. C'est un live où Damasio lui-même a proposé d'interpréter finalement les compositions qu'il a faites avec Yann Péchin en marge de son ouvrage.
Merci encore à tous les deux d'être venus avec nous.
Merci. Merci Alexandre, merci Lolita, Olivier, merci aux auditeurs de Cause Commune et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ainsi va la ville.
Y a pas de secret, y a pas de secret. Y a une vérité souple, sombre, nue, un truc. Ça y est, la furtivité, nous la réussirons uniquement si tu t'immoles, si tu t'immoles. Tu sais ce que ça veut dire, immole, mola, le sacrifice, le feu. On doit créer notre feu ensemble. Il faut que les gens soient extrêmement près de nous, mais prêts, parce que la liberté est un feu. Et qu'on a moins besoin de bois, de bûches que d'air, d'un air qu'on se fabrique nous-mêmes, du dedans, avec nos gorges. L'air de rien. Alain, il faut que la fuite, elle existe complètement en toi. Que les furtifs y soient, toi. Qu'insaisissable, tu le deviennes. Et la rage du sage, et le rouge ouvert, et les anarchitectes, et les taxis, et les vendiants, il faut que tu vives complètement là-dedans. C'est ça qu'il faut, il n'y a que ça qu'il faut. Il faut coller autant, coller autant, coller autant, coller autant. Et que tu fasses aucune concession sur le reste. Tu oublies tout, t'effaces tout, tu t'as pas de futur, t'as pas d'identité, t'es rien. L'identité, c'est de la merde. La seule chose qui a de la valeur, c'est quand t'es capable d'ouvrir une poche de liberté pure dans la vie. Un dehors sauvage, une friche qui pousse dans les cœurs, dans les crânes. Ça, ça restera. Ça, ça mérite que tu vives. Tu peux vivre pour ouvrir ce dehors. Ça, ça mérite que tu vives, tu vois. Là, 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 t'es pas né pour rien, là, là, t'es un couteau debout, t'es une lame qui tranche et qui marche dans la ville. Là, t'as une nécessité, quand tu traces ça, t'es pas un clone, t'es pas un bloom, t'es pas un clown. T'as une nécessité. La nécessité d'être.
Cause commune, cause-commune.fm. Cause commune, cause-commune.fm.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'Histoire en roue libre sur Cause commune 93.1 sur la FM et le DAB+ de la région parisienne ou partout ailleurs sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Par un extrait d'un texte de l'écrivain humaniste et florentin du XIVe siècle, c'est le poète Pétrarque qui va témoigner de la stupeur et l'angoisse des contemporains face à l'épidémie de peste qui frappa l'Europe entre 1347 et 1352. Il décrit la situation comme telle. Consulter les historiens, ils gardent le silence. Interroger les médecins, ils sont glacés de peur. Adressez-vous aux philosophes, ils vous répondent par un geste négatif. La postérité pourra-t-elle croire à tant de malheurs lorsque nous y croyons à peine, nous qui en avons été témoins? Heureux nos arrière-petits-fils qui n'auront pas vu ces calamités et qui peut-être regarderont comme une fable le récit que nous en ferons. L'épidémie de peste décima un tiers de la population européenne et la moitié des habitants urbains, les habitants des villes de l'Europe. La postérité pourra-t-elle croire à tant de malheurs? Pétrarque s'interroge sur l'histoire qui sera faite d'un tel drame si destructeur qu'il en paraîtra, imagine-t-il, complètement irréel. Le poète pose des mots sur ce qu'est la peste noire médiévale dans nos représentations. Elle prit de court toute l'Europe et ébranla ses habitants, ébranla ses contemporains qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. D'ailleurs, nous la comprenons le plus souvent, nous, par déduction. C'est un silence que l'on retrouve dans les sources qui nous permet de savoir qu'un phénomène anormal est survenu. Des actes notariés, par exemple, s'arrêtent au moment où l'épidémie surgit dans une ville où on les retrouve, et puis leur rédaction reprend après l'épidémie, après le passage du virus. Ce n'est pas la même encre. Souvent, ce n'est pas la même écriture, mais ça reprend, comme avant, après le silence de la mort. La peste résonne évidemment aujourd'hui, à l'heure où la moitié de la population mondiale reste confinée pour empêcher la propagation de la maladie Covid-19. L'aspect inédit de notre présent provoque une flambée d'articles, d'analyses, de références historiques, de sociologues, de tribunes d'intellectuels qui tentent de penser l'événement que nous vivons. On en appelle à l'histoire, le plus souvent pour objectiver la situation, l'épidémie actuelle étant bien moins meurtrière que les grandes pandémies du temps passé, et c'est bien heureux pour nous. On se demande aussi quel récit peut advenir après cette crise sanitaire qui se transforme et se mêle en une crise économique d'ampleur, la plus grave depuis 1945, nous dit-on, et ainsi l'épidémie cristallise des débats antérieurs qui existaient bien avant, mais qui deviennent de plus en plus prégnants. Ces débats concernent la croissance, le productivisme, le libre marché, la place de l'État-providence, bref, on ne compte plus les appels au monde d'après à inventer, un monde plus résilient, moins dépendant des énergies carbonées, une économie moins dépendante des productions extérieures, avec une reconnaissance des métiers plus essentiels à notre vie sociale, publique et quotidienne. Prospecter sur le monde à venir, c'est imaginer l'histoire qui va suivre, et elle est celle d'une lutte. Ces imaginaires et ces chemins proposés depuis longtemps, aussi longtemps qu'existe l'écologie et aussi longtemps que les méfaits de la globalisation sont connus, ces chemins, aussi formidables soient-ils, nécessitent d'être imposés, de remporter les esprits et d'être appliqués dans les faits, d'être construits ensemble. Parce que si la pandémie et le confinement permettent un foisonnement de ces idées progressistes, redistributives, ces idées de justice climato-sociale, c'est aussi l'occasion rêvée pour les lobbies, les conservateurs, les climato-sceptiques, ceux que le philosophe Bruno Latour appelle les globalisateurs, de mettre à mal toute tentative de changement de modèle. Une petite musique est en cours depuis quelques semaines, à mesure que l'impact économique de l'épidémie est de plus en plus fort. La priorité devra être donnée au redressement économique, au report des contraintes industrielles et fiscales censées atténuer la trajectoire climatique afin de produire plus, afin de retrouver une économie et une croissance prospère, peu importe son impact sur le climat, la biodiversité et sur nos vies. Il faut d'abord sauver les entreprises, l'écologie passera après. Ce sont des vieux réflexes connus. À l'heure où je vous parle, des décisions et des choix politiques ont lieu, sont en cours quant à la direction de la fameuse relance financière, la solidarité envers les pays les plus touchés par l'épidémie, les pays les plus pauvres. L'épidémie rend prégnante et révèle les inégalités sociales, les failles de notre monde, nous l'avons déjà dit, nous ne cessons de le dire. Selon les conséquences dans leur temps, il se pourrait bien que l'on regarde a posteriori les choix qui sont pris maintenant comme des fables irréelles face à la situation, ou que l'on saluera au contraire des décisions salvatrices pour le destin commun. Mais ça, c'est l'histoire qui le dira.
Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras. L'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts, tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora, et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras, tu verras mon stylo emplumé de soleil, neiger sur le papier l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras. En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, le diable est fait pour ça, tu verras, je ferai le voyou, tu verras, je boirai comme un doux et qui vivra mourra, tu me ramasseras dans tes yeux de rosée.
et je t'insulterai donc du fer brisé. Je serai fou furieux, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Tu verras, tout recommencera, tu verras, Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras, tu verras notre enfant étoilé de sueur, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous scintillant de vigueur, tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés, et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras.
Cette roue libre est consacrée à l'histoire des épidémies, l'histoire de ces virus qui rythment le temps humain. Nous allons faire un tour d'horizon sur les différentes manières d'écrire et d'interpréter leur histoire en se demandant quelles peuvent être leurs conséquences, leur impact possible sur les sociétés. Alors, aucune épidémie ne se ressemble, chacune a sa spécificité selon son époque et son contexte, mais on peut tout de même en restituer un récit global, expliciter les controverses qu'elle suscite dans la recherche en histoire. Nous allons parler de cet ouvrage publié l'année dernière, en 2019, qui s'intitule « Comment l'Empire romain s'est effondré, le climat, les maladies, la chute de Rome », écrit par l'historien américain Kyle Harper. Il revient sur l'histoire antique de l'Empire romain, dont il existe 210 théories pour expliquer son déclin, sa chute dans l'Antiquité tardive, aux alentours de 476 après Jésus-Christ pour ce qui est de l'Empire romain d'Occident, et son affaiblissement autour du 7e siècle pour ce qui est de l'Empire romain d'Orient, aussi appelé l'Empire byzantin. Kyle Harper va ajouter une nouvelle théorie pour expliquer l'affaiblissement et le déclin de cet empire à l'aide des sources issues de la climatologie, de l'analyse ADN des virus dans les fouilles archéologiques des sépultures, et des études paléo-environnementales qui vont étudier l'évolution des arbres et des forêts et qui vont en déduire des variations climatiques. Harper nous éclaire l'histoire romaine en donnant un rôle primordial à l'environnement et à la nature. D'abord, l'expansion et la prospérité de Rome s'expliquent en partie par un optimum climatique romain qui eut lieu entre moins 200 avant notre ère et 150 après Jésus-Christ, qui correspond à la période d'expansion conquérante de la République et de l'Empire, une période où le climat est relativement stable dans le bassin méditerranéen avec des précipitations régulières qui assurent de bonnes récoltes. Cette prospérité permet à Rome de conquérir des territoires et de devenir l'une des plus grandes entités politiques et territoriales de l'histoire. Elle compte 75 millions d'habitants au IIe siècle et près d'un million rien que dans la ville de Rome. Cette prospérité, elle est incarnée par des axes de communication, des routes commerciales et militaires qui traversent l'Empire et relient des villes de plus en plus denses. Ce sont les fameuses voies romaines qui vont de l'Asie mineure jusqu'au nord de l'Angleterre. Et ces routes d'une grande efficacité favorisent évidemment l'expansion d'épidémies lorsqu'elles se déclarent, et les villes de plus en plus denses sont des foyers à bactéries, des foyers de propagation de virus. L'Empire romain donc ne s'est pas effondré brutalement du jour au lendemain, mais s'est désagrégé à partir du IIe siècle, à une période où le climat devient plus changeant, plus froid, ou à une période où des épisodes de disette sont attestés, plus nombreuses et plus récurrentes. Il y avait des épidémies avant, elles étaient plus locales, plus endiguées dans les villes, visiblement, mais la première grande épidémie se déclare en 165 dans la Turquie actuelle, à la même époque, l'armée romaine combattaient en Mésopotamie, et les soldats attrapèrent le virus et le répandirent lors de leur retour à Rome. C'est la peste Antonine. En vérité, c'était une variole qui frappe considérablement l'Empire. Des villages égyptiens sont dépeuplés dans les années qui suivent. Elle affecte tant l'armée romaine que celle-ci renonce à une attaque contre les barbares au nord de l'Italie. Des morts sont attestées en 182 dans la Bavière actuelle. Et en 189, un témoin à Rome écrit « Il meurt 2000 personnes par jour », un chiffre qui peut être réel. Au total, on estime le bilan de cette épidémie à 8 millions de morts. Elle touche toute l'Europe. Une sécheresse avait déjà affaibli les populations 10 ans auparavant, et ce sont là deux événements qui vont affaiblir l'Empire. 60 ans plus tard, c'est la peste Cyprien, du nom de l'auteur qui nous rapporte les faits. L'épidémie apparaît en Éthiopie, elle touche Alexandrie en Égypte en 249 et Rome en 251. Nous sommes là en plein cœur du IIIe siècle, qui est une période de crise pour l'Empire. Il y a les provinces qui rentrent en sécession, il y a des complots politiques, il y a des empires perses qui menacent à l'est, et des peuples qui commencent à migrer au nord, des peuples germaniques que l'on a appelés barbares. Leur migration est concomitante à ce refroidissement, à ces sécheresses qui touchent l'Europe septentrionale. De fait, selon Kyle Harper, l'épidémie de Cyprien, concomitante avec ces migrations barbares, affecta encore une fois l'armée, affecta la population romaine, que l'endiguement de ces migrations s'est révélé plus difficile. Par palier, ces deux épisodes d'épidémie affectent la démographie de l'Empire, et cela se fait avec un climat changeant, plus froid en arrière-plan, des sécheresses prolongées qui n'ont pas lieu qu'en Europe, puisque des relevés dans les steppes asiatiques que l'on date à 350 nous indiquent des sécheresses prolongées également à cet endroit-là, et c'est dans ce lieu-là que les Huns, les barbares, vivaient, et qui commencèrent à la même date à migrer vers l'Europe au IVe siècle. En 395, l'Empire se divise entre l'Empire romain d'Occident, dont la capitale est Rome, et l'Empire romain d'Orient, dont la capitale est Constantinople. Et si le premier se désagrège par l'effet conjugué des guerres, des crises politiques et du délitement politique au profit de royaumes barbares, le second résiste et conquiert des territoires au début du VIe siècle par l'élan réformateur de Justinien. Mais voilà que le froid s'accentue à cette période. Deux éruptions volcaniques en 536 et 540 modifièrent considérablement le climat, l'Europe perdant entre 1,5 et 2,5 degrés en moyenne. C'est une période sans été. Les historiens byzantins décrivaient un nuage qui envahit le ciel en 536. Le soleil brillait sans éclat et la neige tomba en Chine en plein été. Cela a des conséquences sur les récoltes pendant les décennies qui suivent. Et en 541, la peste, la même que celle du Moyen-Âge, celle de Yersinia pestis, se déclare en Égypte. Elle atteint Constantinople l'année d'après, où l'on compte des milliers de morts par jour. La moitié de la ville succombera de la maladie. Elle dure deux siècles et frappe par poussées successives jusqu'en 767. Cette peste empêcha l'ambition de Justinien de refonder l'Empire tel qu'il était à son apogée. À Rome, dans les années 540, la population passe de 700 000 habitants à 20 000. De par son étalement sur 200 années, certains historiens lui confèrent un rôle décisif sur les conquêtes arabes au 7e siècle, qui repoussèrent le territoire sur ses bases autour de Constantinople et de la Turquie, expliquant que les armées et les populations perses et byzantines étaient trop affectées par les vagues d'épidémies. Voilà la thèse de Kyle Harper, qui va considérer que par palier, ces trois épidémies affectent durablement les structures démographiques et les structures sociales de l'Empire romain, que celles-ci s'ajoutent à un changement climatique en arrière-plan qui est tout aussi impactant pour les populations et qui participe au désordre politique de cette période. C'est une thèse séduisante qui a l'originalité de puiser dans des sources environnementales jamais prises en compte jusqu'alors. Il existe des critiques à cette pensée qui vont pointer une lecture déterministe, une histoire faite de réactions en chaîne par les événements de la nature. Toutefois, à la lumière des variations climatiques et l'effet répété d'épidémies, on peut discerner une résilience réelle des sociétés dans le temps court qui se relève après le passage du virus, et des changements plus lents sur une autre temporalité qui, sur un temps beaucoup plus large. Les faits que nous avons exposés, issus de l'ouvrage de Kyle Harper, s'étalent sur 500 ans. Et dans ce temps long, l'interaction entre les changements climatiques et les épisodes épidémiques tendent à en faire des facteurs de premier plan dans les évolutions sociales et politiques de l'Europe, dans les mutations de l'Empire romain. Mais sur un temps court, quand on s'intéresse aux seuls événements des épidémies, ces dernières n'ont pas véritablement d'impact politique. Certes, l'Empire Justinien, par exemple, se rétracte 10 ans après le passage de l'épidémie et est affaibli par le choc démographique qui conduit à une baisse des ressources fiscales et qui conduisent à affaiblir son armée. Mais cela ne change fondamentalement rien aux piliers des institutions impériales, aux traditions romaines qui perdurent jusqu'aux invasions arabes du 7e siècle. Il n'empêche que des questions se posent quant à des changements plus profonds, culturels et religieux, et Kyle Harper n'hésite pas à mettre directement en lien l'expansion du christianisme et les épidémies du 2e et 3e siècle de notre ère. Ces drames auraient renforcé le christianisme et sa dimension eschatologique, apocalyptique au 6e siècle. Quoi qu'il en soit, l'histoire des épidémies met en évidence les interconnexions humaines par les routes et les échanges commerciaux, ainsi que les liens entre l'évolution des sociétés et leur environnement qui agissent à différentes échelles. Se pourrait-il que les éruptions volcaniques et le refroidissement du 6e siècle aient favorisé l'apparition de la pandémie de peste qui suit 10 ans après? Ce lien n'est pas établi. En revanche, il est plus connu et plus évident pour ce qui est de la peste noire au XIVe siècle, dont les conséquences à court ou à long terme sont également discutées. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM et le DAB+ de la région parisienne ou sur cause-commune.fm. La peste disparaît d'Europe au 8e siècle et on l'oublie peu à peu pendant près de 600 ans. Le virus reste cantonné en Asie centrale, il se situe dans les puces, des gerbilles, des marmottes et d'autres rongeurs qui vivent dans les hauts plateaux chinois et tibétains. Pendant ce temps, jusqu'à ce qu'il ressurgisse, les sociétés médiévales se développent. De l'an 1000 jusqu'au milieu du 13e siècle, le climat se fait à nouveau l'allié d'une croissance démographique, économique et urbaine. L'Eurasie compte 300 millions d'habitants en 1300 au début du 14e siècle, et le chiffre tombe à 170 millions en 1600, trois siècles plus tard. Il y a donc eu, sur cette analyse démographique, sur un temps long, pendant trois siècles, une période où des crises multiples ont fortement impacté la population du territoire eurasiatique, et parmi ces crises, la peste noire en est évidemment une des plus meurtrières. Pour comprendre son récit dans sa globalité, analyser ses possibles impacts, il faut éluder tout le contexte de son temps. Le développement médiéval entre l'an 1000 et l'an 1300 à peu près atteint un seuil selon une théorie malthusienne dans l'histoire économique. L'Europe, au début du XIVe siècle, était trop peuplée. Les terres atteignaient la limite de l'exploitable. Les rendements ne suffisaient plus à satisfaire les besoins d'une population de plus en plus nombreuse. Malgré le défrichement dangereux des forêts, il devint impossible dans certaines régions de partager les exploitations. En outre, ces divisions multipliées compliquaient d'autant plus les rendements. L'essor économique du Moyen-Âge central se caractérisait aussi par un vaste réseau d'échanges de marchandises à travers le monde, un réseau à travers le monde connu, de l'Eurasie, qui existait déjà, mais qui va être facilité par l'Empire mongol, qui conquiert au XIIIe siècle une grande partie de l'Asie centrale et unifie un immense territoire qui va de la Turquie jusqu'en Corée, de la mer Noire ukrainienne jusqu'aux côtes chinoises de l'océan Pacifique. L'Empire sécurise des routes et en crée de nouvelles en accentuant le commerce entre l'Europe et l'Asie, on appelle cela la Pax Mongolica, c'est une sécurité assurée. Ce commerce fructueux permit aux villes de se développer et de constituer un vaste circuit d'échanges et de marchandises. Mais à la moitié du XIIIe siècle, dans les années 1250, le climat se refroidit brutalement. C'est le petit âge glaciaire qui se poursuit jusqu'au XIXe siècle. Et nous savons aujourd'hui qu'une série d'éruptions volcaniques provoqua cette chute de température, notamment celle du volcan de Samala en Indonésie entre 1357 et 1358. Ce petit âge glaciaire impacte les récoltes. Les disettes sont de plus en plus nombreuses et intenses en Europe au XIVe siècle. La famine de 1315, caractérisée par des sécheresses alternées à de fortes pluies, affaiblit considérablement la population européenne qui était déjà en proie à des difficultés de surexploitation. La peste surgit ainsi dans un monde déjà en crise et à bout de souffle, un monde soumis à des variations climatiques d'ampleur. Les gerbilles dans les plateaux du Tibet sont contraintes de descendre vers les plaines peuplées et les caravanes de commerçants qui sillonnent les routes de la soie. Le changement climatique ayant asséché leur habitat dans les années 1320, elles redescendent vers les plaines et profitent d'un milieu plus humide. La prolifération de rongeurs démultiplie ainsi les puces qui vont sauter sur les tissus et sur les humains installés à proximité. C'est la peste noire, le célèbre épisode de la peste du Moyen-Âge. Elle ravage le Kurdistan puis l'Irak en 1338. Les navires génois embarquent des rapporteurs de puces et donc du virus Yersinia pestis dans le port criméen de Kaffa en 1347 et le virus se propage alors dans toute l'Europe jusqu'en 1352. Depuis l'Irak, la peste atteint l'Égypte et le Maghreb, l'Empire mongol est aussi touché et de récentes découvertes archéologiques indiquent que des villages en Afrique subsaharienne furent dépeuplés à la même période. La peste serait alors propagée au-delà du Maghreb, touchant toutes les lignes de force du commerce international. On estime entre 25 et 40 millions de morts en Europe en l'espace de 5 ans. Qu'entre 40 et 60% de la population du Moyen-Orient fut emportée et que la peste accéléra une crise politique qui effondre la partie turco-mongole de l'empire mongol et renverse la dynastie de la partie chinoise de cet empire. Pour ce qui est de l'Europe et de ses sociétés éprouvées par la crise économique, La peste ne change rien, rien dans les structures sociales et politiques des royaumes qui, à l'image des actes dont la rédaction reprend après le passage du virus, se reconstruit sur les mêmes bases. C'est ce fait qui étonne et interroge l'historien français Patrick Boucheron, méfiant vis-à-vis de possibles changements entraînés par les épidémies. Pourquoi, se demande-t-il, pourquoi une société aussi durement éprouvée continue de croire au même Dieu et d'obéir au même roi ? Voilà une question qu'on a guère envie de se poser aujourd'hui. Il ne se passe effectivement rien après la peste. Seulement, celle-ci ne disparaît pas en 1352, et si les 5 années du XIVe siècle sont les plus meurtrières, avec 7 millions de morts rien que en France, elle ressurgit, réapparaît régulièrement pendant près de 300 ans. Une génération peut connaître plusieurs épidémies de peste au cours de sa vie. Elle s'installe dans le temps jusqu'en 722 en France, où la dernière épidémie frappa Marseille et toucha un quart de ses habitants. C'est sans doute là, par son caractère répété encore une fois, encore par ses poussées successives d'épidémies qui rythment les 15e et 16e siècles, que l'on peut mesurer de possibles impacts de la peste sur les sociétés humaines. Et le débat est alors une question de temporalité, entre la résilience immédiate des structures sociales et politiques pendant et après une épidémie, ou une analyse de temps plus long au cours de laquelle les épidémies prennent part aux grands changements, aux évolutions, aux dynamiques profondes des sociétés médiévales et modernes. Les chocs démographiques provoqués par les épidémies eurent un impact sur l'économie des sociétés. Elles entraînent une libération de terres et des exploitations plus grandes sont alors disponibles pour des paysans moins nombreux. Pour certaines régions, il y a eu donc plus de ressources pour moins d'habitants et cela se serait traduit par une relative augmentation du niveau de vie. On constate surtout que les campagnes furent réorganisées, que des seigneuries se tournent vers le pâturage qui nécessite moins de main-d'œuvre que la culture de céréales. Comme il y a moins de main-d'œuvre d'une manière générale, ceux qui louent leur force de travail purent négocier des hausses de salaire. Certaines régions étaient amputées de la moitié de leur population et les prix s'envolent. Les travailleurs sont une denrée rare que les pouvoirs royaux et municipaux cherchent à encadrer. On fixe des salaires maximaux en 1349 en Angleterre, 1351 en France. Cela n'empêche pas les travailleurs journaliers de tenter d'améliorer leurs conditions. Ils réclament des avantages en nature ou de meilleurs horaires. Les élites et les chroniqueurs de l'époque se plaignent que les hiérarchies sociales soient inversées après la peste. Des propos largement fantasmés. Et si on observe des conditions de vie légèrement meilleures dans certains métiers et dans certaines régions, les temps sont globalement durs, rythmés encore une fois par les mauvaises récoltes et les épidémies. Ce temps de crise du XIVe siècle est aussi appelé la dépression médiévale, la crise de la fin du Moyen-Âge. Pour certains historiens, cette crise, due en partie au choc démographique suite aux épidémies régulières, aurait eu un impact dans le développement de l'industrie manufacturière. Du moins, on insiste à une diversification de l'économie où l'on cherche à optimiser la production à moindre coût, ce qui fait de l'épidémie de la peste une accélératrice de progrès techniques, l'investissement dans la manufacture conduisant à l'invention puis à l'essor de l'imprimerie au XVe siècle en serait un exemple, l'imprimerie étant fort utile lorsqu'il y a moins d'hommes pour copier les textes. L'impact de la peste est plus prégnant dans les mentalités et sur le long terme. Si des gravures commençaient à représenter la mort, à souligner le temps restreint de la vie avant l'épidémie, les représentations de la faucheuse explosent et la mort devient présente dans les représentations artistiques après la peste noire, représentée par les danses macabres qui symbolisent l'égalité de tous face à la mort. Cette dernière fait peur, elle est associée à un effroi et à la souffrance qui ferait de la peste un événement, une mémoire collective qui aurait influencé le rapport à la mort. L'historienne Marguerite Gonon soutient que cette peur est nouvelle pour les sociétés du Moyen-Âge. Avant le XIVe siècle, la mort était comparable à la fin d'une journée de travail. La vie d'après était d'ailleurs plus importante que la vie terrestre. Les funérailles pour les campagnes et dans les communautés villageoises étaient des moments de fête, de joie collective, où l'on faisait de grands repas et où l'on célébrait la vie éternelle du défunt. La peste et la guerre de Cent Ans associeront alors la mort à la souffrance. Cette peur de la mort s'accentue dans ce contexte de dépression dans la fin du Moyen-Âge, et cette peur conduit dès lors les contemporains à s'inquiéter pour leur salut. Ils cherchent la protection à travers des reliques ou l'achat d'indulgences que l'Église produit de plus en plus et de manière lucrative au XVe et XVIe siècle. Ces indulgences, qui sont des bouts de papier que l'on achète aux autorités ecclésiastiques pour absoudre ses péchés, cristallisent les critiques à l'égard des autorités religieuses, et les épidémies forment ainsi des facteurs qui irriguent les origines du protestantisme. L'autre impact et l'évolution progressive que la peste accentue et que nous pouvons souligner concernent le regard et le traitement des plus pauvres. Ces miséreux errants restaient auparavant intégrés dans la société, soutenus par des solidarités familiales et religieuses. La charité et l'aumône étaient un devoir pour les chrétiens, une condition pour le salut de leur âme. Le discours change peu à peu, et la peste accélère les mesures répressives envers les miséreux, envers les gueux, envers les errants. Les chocs démographiques rompent les solidarités familiales et affaiblissent les moyens financiers alloués aux établissements religieux, les hôpitaux et les hospices dédiés à l'accueil et aux soins des plus fragiles. Les pauvres sont peu à peu associés à la maladie, au désordre, et les ordonnances pour expulser les vagabonds et les oisifs sont signées en 1351 et 1354. Alors que la population est moins nombreuse et est en forte baisse, les effectifs de police doublent ou triplent dans les villes. On chasse les mendiants, associés à la maladie, mais aussi associés à la délinquance en temps de guerre. La peste eut cet effet de contrôle sur la population. Parallèlement aux constructions de mise en quarantaine dans les villes portuaires qui apparaissent au XIVe siècle, les plus fragiles sont exclus de l'ordre social. Ils sont exclus de l'espace urbain. Les autorités municipales et laïques prennent le contrôle des hôpitaux et sélectionnent le bon pauvre. Ils établissent des critères pour mériter la charité qui, par la crise économique, doit être bien utilisée. Ainsi, l'épidémie de peste participe grandement à un processus d'exclusion et de répression envers les miséreux, envers ceux qui sont dans le besoin. On trouve là l'origine des normes sociales et moralisatrices qui aboutissent à faire des pauvres des pécheurs devant Dieu, un discours théorisé au XVIe siècle. Plus que des conséquences politiques, c'est un climat de peur, de méfiance et d'aversion qui fermente au gré des guerres, des crises agricoles et des épidémies dont on ne connaît pas l'origine, mais dont on comprend le principe de contagion. Isoler, repousser et contrôler tout ce qui peut s'apparenter à la maladie est alors un principe qui dicte les politiques municipales de la fin du Moyen-Âge. Ce climat de peur éclaire également une nouvelle représentation du diable dont on se moquait avant cette période de trouble. Il devient l'objet de toutes les angoisses, des angoisses exacerbées avec cette peur de la mort, directement liée à l'essor des épidémies, et se retrouve associée à la magie. Les épidémies contribuent à entretenir ces angoisses patentes, à chercher non pas une punition divine comme ce fut le cas lors de la peste noire de 1348-1352, mais à y voir l'acte du démon, les intentions de Lucifer, et les femmes accusées de sorcellerie en seront les victimes de premier ordre. Toutes ces conséquences et ces impacts des épidémies répétées dans le temps ont différentes échelles de temporalité. Ces conséquences ont un intérêt qui est de relier l'immensité complexe des changements climatiques qui inaugurent ces périodes de crise à un minuscule pathogène évoluant dans les puces de rats et que les hommes se transmettent par leurs interconnexions. Dans les épidémies antiques et leur rôle dans l'effondrement de Rome ainsi que l'épidémie de peste de la fin du Moyen-Âge, les événements climatiques précèdent les épisodes épidémiques. Nous allons voir avec l'arrivée des Européens en Amérique et en Amérique du Sud que le rapport va s'inverser. L'épidémie la plus dévastatrice de l'histoire se trouve à ce moment-là et qu'elle eut comme conséquence un changement climatique qui conduit à dater à ce moment-là la première variation du climat dont la responsabilité est incombée à l'homme. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM. Nous sommes à la fin du XVe siècle. L'arrivée de Christophe Colomb dans les Antilles en 1492 est le point de départ d'une entreprise d'appropriation des Amériques, de la colonisation de l'Amérique latine qui ravage les peuples amérindiens pendant deux siècles. les Espagnols et les Portugais bâtissent leurs empires coloniaux. Au cours du XVIIe siècle, ils conquièrent des territoires et abattent de puissants empires amérindiens. L'empire aztèque, qui comptait 17 millions de sujets au Mexique, est battu en 1520. L'empire inca au Pérou tombe en 1530. Ce sont là quelques exemples d'entités politiques qui chutèrent les uns après les autres par l'assaut répété des Européens, en particulier des Espagnols et des Portugais. C'est la conquista, l'asservissement des Amérindiens en esclavage. Les conquistadors évangélisent ces peuples avec violence et y exploitent leurs matières premières, leurs ressources. On a mis en avant la supériorité technique et l'art politique des Européens sur ces empires pour expliquer leur défaite. Les fusils, les chevaux et le jeu de division entre des peuples rivaux mirent à mal ces sociétés anciennes et voire ces civilisations, dont la population était pourtant bien plus nombreuse que les soldats espagnols ou portugais. Mais ces derniers avaient avec eux des virus. Ils ont emporté la variole, la grippe, la rougeole et d'autres maladies infectieuses contre lesquelles les Amérindiens n'étaient pas immunisés. Ainsi, on constate des vagues successives d'épidémies tout le long du XVIe siècle, des épidémies de variole, de typhus, de syphilis. Il est difficile d'estimer précisément la part des maladies dans l'effondrement démographique des peuples américains dans un contexte de guerre et de violence, mais lors de la conquête du Mexique, de l'Empire aztèque par exemple, on sait que la variole tua une grande partie des habitants de la capitale. S'il est difficile d'en estimer le nombre précis, les épidémies auraient tué entre 40 et 60% des indigènes d'Amérique latine. Avec précaution, on peut dire qu'il y avait autour de 100 millions d'habitants avant l'arrivée de Christophe Colomb. On n'en compte plus que 50 millions un siècle plus tard. 50 millions de morts sont estimés. Et une telle mortalité conduise certains chercheurs et certains militants à définir cet événement comme un génocide des peuples amérindiens. Les conséquences de cette colonisation sont majeures. On peut y voir les origines du capitalisme mondialisé, un début en tout cas d'une concurrence européenne pour maîtriser le monde et établir de grands empires coloniaux. Après les Portugais et les Espagnols, ce sont les Français, les Anglais et les Hollandais qui rentrent dans la danse. Et bien sûr, ces conquêtes ouvrirent la voie aux traites négrières et au commerce triangulaire des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. L'un des impacts de ces épidémies amérindiennes du XVIe siècle est climatique. En 1610, un siècle après les conquêtes d'Amérique du Sud, une chute brutale des températures au niveau mondial est enregistrée. Le choc démographique des Amérindiens entraîne un abandon massif d'exploitation. Les forêts reprirent de vastes terrains, 56 millions d'hectares, l'équivalent de la France, furent reboisés en Amérique du Sud. Et ces arbres ont absorbé en un temps très court beaucoup de CO2. Les taux de particules de gaz carbonique dans l'atmosphère auraient baissé de 47 à 67% entre 1520 et 1610. Cette baisse de CO2 dans l'atmosphère découle directement de la chute brutale de la population amérindienne fauchée par des virus européens.
It feels, and when do you think it's star. Been up for 5 days, come down here, mama. Hunting around, always. Ooh. Cause you're afraid of sleeping. How do you think it feels to feel like a wolf and foxy? How do you think it feels to always make love by proxy? How do you think it feels? And when do you think it stops? When do you think it stops?
Alors, à la lumière de cette histoire, il apparaît que chacune de nos périodes qui définissent les temps historiques, chacune de ces périodes peut être associée à une poussée d'épidémies meurtrières. Antiquité, Moyen-Âge, période moderne, toutes s'accompagnent de leur épisode de virus, et cela nous renvoie directement au concept de pathocénose de l'historien croate Mirko Grmek. À l'image de la biocénose, qui est l'équilibre entre les êtres vivants dans un écosystème, il conceptualise les maladies comme un état d'équilibre entre différentes maladies dans des moments historiques et des sociétés données. Ainsi, l'invention des vaccins et de la pénicilline à la fin du 19e siècle change l'équilibre des maladies en Europe, du moins, et donne lieu à un recul de certaines, tandis que d'autres émergent, non pas qu'elles n'existaient pas avant, mais qu'elles deviennent prédominantes. Nous avons fait un tour d'horizon des épidémies dont l'histoire révèle plus que jamais l'étendue des liens entre le climat, les virus et nos sociétés. Comme une signature des temps, les virus laissent des traces et chacune de nos grandes périodes, de nos transitions, semble accompagnée d'épisodes épidémiques. Les controverses sur leurs conséquences historiques viennent d'analyses différentes entre les échelles de temporalité, mais elle s'explique aussi par des positions dans la recherche et des points de vue différents selon différentes écoles. Kyle Harper, qui lie l'effondrement de l'Empire romain aux poussées épidémiques de l'Antiquité tardive, est américain. Il est historien américain et c'est aux États-Unis que l'histoire environnementale est plus aboutie qu'en France. Ce champ de recherche en histoire s'attelle à écrire le récit du non-humain. Il est né dans les années 60 aux États-Unis en même temps que les premières luttes écologistes. Les historiens et les historiennes s'inspiraient des mouvements historiographiques européens qui s'attelaient à une histoire vue d'en bas, une histoire du point de vue des dominés, de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, une histoire économique et sociale. Ces historiens théorisaient que la nature étant tout aussi exploitée, elle méritait que l'histoire s'y intéresse, elle méritait un récit. Malgré les recherches pionnières d'Emmanuel Leroy, la Duruy et l'histoire du climat en France, ce champ de recherche a émergé au début des années 2000, ce qui explique certaines réticence à donner à la nature, à l'environnement, des rôles principaux dans les événements historiques. Il est vrai que ces récits globaux présentent les faits comme une réaction en chaîne auxquelles les humains seraient soumis ou qui dicteraient leurs actes. Les critiques vont par ailleurs souligner que l'essor des thèses environnementales sont calqués sur les problématiques actuelles d'effondrement, la collapsologie en vogue influencerait l'analyse et réécrirait l'histoire. À cet égard, les historiens du 19e siècle, qui est le siècle des nations, ces historiens plaçaient les étrangers comme principal facteur de l'effondrement de l'Empire romain. La décadence morale et les barbares auraient eu raison d'un empire phare de la civilisation. Les chercheurs du 20e siècle vont amorcer des théories économiques et sociales qui caractérisent bien leur temps, et voilà que le climat entre comme facteur déterminant dans notre histoire, à chaque période, son angle et son point de vue. Personnellement, je ne choisirais pas entre toutes ces hypothèses et je ne prendrais pas part à ces controverses qui renvoient à des oppositions stériles entre la nature et la culture. Pour ce qui est de l'histoire des épidémies, je pense que c'est avant tout une histoire de liens et d'échanges qui ne fait que réaffirmer la complexité des causes et des conséquences des événements historique, une histoire multifactorielle qui s'enrichit de plus en plus par l'apport de disciplines différentes qui permettent tout simplement d'enrichir le récit. C'est la fin de l'histoire en roue libre. Vous pourrez retrouver toutes les musiques diffusées ainsi que des références, des articles, des sources sur lesquelles je m'appuie dans la fiche podcast de l'émission sur le site de causecommune.fm. Il est temps pour moi de rendre l'antenne, de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires. Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM et le DAB+ de la région parisienne ou sur cause-commune.fm, voire en podcast avec l'application Cause Commune. Salut à toutes et à tous.
Cause Commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm. Et c'est le moment, accord au corps.
Como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por